Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons des liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Marin Moffret et suis accompagné en studio par Elissa Guyon. Bonsoir Elissa.
Bonsoir.
Et par Félix Stédelin en studio. Bonsoir en régie, pardon. Bonsoir Félix.
Bonsoir.
Et ce soir, nous recevons Magali Triano. Bonsoir Magali.
Bonsoir.
Fanny Morel. Bonsoir Fanny.
Bonsoir.
Et Guy Durand. Bonsoir Guy.
Bonsoir.
Avec ce soir, une question que nous allons nous poser toute la soirée, qui est la question de savoir comment nourrir les villes et comment s'inspirer de la perma-économie et de la permaculture pour faire cela avec les paniers marseillais Bleu Tomate et la CEC que vous représentez ce soir. On aura l'occasion de présenter ces initiatives un peu plus tard, mais pour celles et ceux qui ont l'habitude de nous écouter, ce qu'on aime bien au début, c'est d'aller aux prémices, aux racines de vos engagements respectifs, de savoir ce qui vous amène à être ce soir à notre micro. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Fanny d'avoir rendu cela possible. Et donc je lance cette première question ouverte. Bah, quel est le sens de vos engagements pour chacun, chacune d'entre vous ? Large question. Quelqu'un veut commencer ?
Vas-y Guy, non ? Alors dans quel sens on commence, puisqu'il s'agit de sens ? Ouais, pour ce qui me concerne, c'est plutôt le bon sens. On va essayer d'aller vers le bon sens paysan.
Moi, j'ai toujours voulu être agriculteur et j'ai été agriculteur. Et j'ai fait tout le parcours de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique.
Merci Guy. Fanny ?
Je continue, on continue dans le sens. Eh bien moi, je suis maman de deux enfants et je me suis pris une double claque écologique en 2019, à la fois en étant à l'autre bout de la planète sur un atoll et en voyant des Lego échouer. Je me suis dit que finalement, cet océan Pacifique qui nous fait tous rêver, finalement, c'était peut-être qu'une grosse poubelle. Et en revenant et en écoutant une conférence de Yannick Rudeau qui nous a expliqué que c'était pas la planète qui était en danger, c'était bien l'humanité. Et je me suis dit que ben là, pour mes enfants, les leurs et les générations futures, il fallait que je m'engage. Et du coup, je suis engagée aussi bien personnellement que professionnellement aujourd'hui.
Merci Fanny. Et alors, je commençais avec une question qui peut être un peu imposante sur le sens de l'engagement. J'aimerais qu'on puisse continuer un peu ce tour de table à mieux vous connaître. Et donc, avant de parler de vos structures, de présenter un peu vos cheminements qui vous amènent jusque là où vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous voulez refaire le même tour de table ? Est-ce qu'on change les rôles ?
Ben, je peux effectivement, ça peut recouper les deux questions. En ce qui me concerne, donc, j'étais journaliste au Parisien. Et puis je suis descendue à Marseille parce que je cherchais le soleil et la mer. Et le premier job que j'ai trouvé, c'était un job de journaliste agricole. Donc à l'époque, autant vous dire que quand vous alliez dans les soirées, quand on vous disait « Tu fais quoi, toi hein ?»« Ben, je suis journaliste agricole », c'était vraiment pas à la mode. Mais je me suis retrouvée, effectivement, premier reportage pour l'agriculteur provençal sur une exploitation de tomates qui devait être dans la plaine de la Croix. Et donc, c'était 4000 m² sous serre, des tomates dans des gouttières. Et je suis rentrée à la rédaction en disant, ben, c'est ça, agriculture ? Il m'a dit oui. Je dis, ben, je crois que je ne vais pas faire ça, moi. Et il m'a dit, mais non, mais il y a d'autres choses. Il y a l'agriculture biologique, il y a tout ça. Mais bon, il ne faut pas trop en parler, parce que la presse agricole, elle est financée par les syndicats agricoles. Donc, il faut trouver un certain équilibre. Et donc, finalement, comme j'étais pigiste, l'équilibre, je l'ai trouvé dans la pluralité des supports, des magazines pour lesquels j'ai travaillé, mais en me spécialisant sur les questions, on va dire, d'agroécologie.
Et qui fait sens avec ce qu'on présentera après, Bleu Tomate, sur une agence de communication qui valorise les acteurs de l'agroécologie en Provence. ça sera dans la suite du parcours et on en parlera juste après. Fanny, Guy, est-ce que vous voulez continuer ?
Moi, je veux bien. En fait, moi, je suis d'une famille d'agriculteurs depuis plusieurs générations. Mais en fait, je n'ai pas été élevé à la ferme petit, quoi, en fin de compte. Je suis retourné en agriculture en vacances chez des oncles qui m'ont donné envie de faire ce métier-là. Et en plus, j'étais au lycée agricole, et puis j'ai fait une carrière classique. On avait un verger avec mon épouse en Touraine, qui dit verger, dit comme la vigne, le maximum de ce que vous pouvez imaginer en traitement, en pesticides et tout ça. Quand on est dans le bain, ben, il faut y aller, quoi. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer dans les années 98, un consultant en arbo bio, Jean-Luc Petit. Ça me fait toujours quelque chose d'en parler parce qu'il m'a ouvert vraiment une voie complètement différente et ce que je voulais faire en fait. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait qu'une ligne en fin de compte, l'agriculture biologique. Donc on a basculé le verger tranquillement en arbo bio et jusqu'à ma retraite. Et c'est par ce biais-là, dont on parlera plus tard, que j'ai rencontré le mouvement des AMAP qui faisait le lien entre la production et les consommateurs, en fin de compte. Parce que produire bio, c'est bien, mais à quoi ça sert si c'est pas pour nourrir les gens, quoi, en fait.
Moi, je suis touché par l'émotion qui vient de se partager autour du plateau et notamment l'émotion autour de la transmission, qui est une très grosse question, je trouve, à l'heure des enjeux de transition, parce que quand on transitionne, il s'agit de couper ou de basculer par rapport à des modèles qui nous ont précédés. Et en même temps, qu'est-ce qu'on garde? Voilà, merci pour ce partage. J'ai noté Jean-Luc Petit, c'est ça?
Oui.
Et quand tu as dit, pardon, je
Oui, bien
peux
sûr,
intervenir.
on peut...
Guy, quand tu dis on a basculé tranquillement, c'était vraiment tranquillement de basculer du conventionnel au bio à ce moment-là?
Oui, c'est-à-dire que en 98, on a décidé de passer en bio, mais tu passes pas 15
Ouais, c'est
hectares de verger d'un seul coup. Donc on l'a fait en 3, 4, déjà il faut 3 ans pour basculer. Et on l'a fait par parcelle, en
Par
fin de compte,
parcelle,
par
ouais. Ok,
parcelle. Voilà,
d'accord.
c'est ça. Parce que ça entraîne, on a désappris tout ce qu'on avait appris
Oui.
et on a appris autre chose petit à petit, quoi. Et 10 ans après, je ne sais encore pas grand-chose. Je ne savais pas encore grand-chose. Et même maintenant, quoi, en fait, il y a encore tout à apprendre.
Merci beaucoup pour ce partage. Fanny, je te laisse la lourde charge de continuer à ce tour de table après un moment fort en transmission, en partage.
Ouais, bah tu disais que les transitions, des fois, ça se faisait sur la base d'une rencontre. Et du coup, je rebondis en disant que moi, ça a été presque sur la base d'une intuition, parce que bah, cette fameuse année 2019, j'avais aussi fait un burn-out. Et en fait, je suis rentrée de ce voyage un peu loin, avec ce choc que j'ai eu et cette conviction qu'il fallait que je fasse autre chose, avec l'intuition du pair management. En fait, le management inspiré de la permaculture, et je ne savais pas ce que c'était que la permaculture à l'époque. J'avais juste vu le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent 4-5 ans avant, donc c'est vraiment quelque chose qui m'est revenu. Et du coup, je me suis formée à la permaculture. Donc moi, je ne vis pas les mains dans la terre parce que je suis une urbaine, mais par contre, ce que je fais, ma spécialité, c'est d'intervenir dans les organisations, sur les sujets de management, de coopération. Et du coup, la permaculture, elle s'inspire du vivant et j'essaie de ramener ça dans les entreprises. Voilà, donc c'est un petit peu parallèle et en même temps c'est que cette manière-là dont j'accompagne les transitions parce que l'idée c'est aussi de prendre soin des collectifs, prendre soin des équipes et des personnes, et puis en mangeant et puis en travaillant aussi, en collaborant de manière plus constructive et coopérative.
Merci. Alors, on a employé le mot permaculture. Souvent, j'aime bien demander tout de suite des définitions des mots. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, restez attentifs parce qu'on va en parler un peu plus tard, puisque ça sera un peu le cœur de cette question. Mais pour finir cette première thématique sur le rapport au moi, à qui vous êtes, j'aimerais vous poser une question sur votre rapport sensible au vivant. Comment est-ce que vous le définiriez défini... Oui, définiriez. Chacun, chacune, voilà. peut-être en un mot ou en une phrase, ce qui vous vient spontanément.
Moi, ce qui me vient spontanément et ce qui m'anime chaque jour dans ce que je fais depuis plus de 20 ans, c'est le potager de ma mamie Charlotte. Et donc, mon lien au vivant, c'est un lien nostalgique à l'enfance et à tout ce que ça représentait de pouvoir passer des heures et des heures dans le potager à regarder l'infiniment petit. Enfin, qui n'était pas si infiniment petit, puisque maintenant on va vers l'infiniment, infiniment, très, très, très petit. Mais voilà, ce sens de l'observation comme ça qu'on a quand on est enfant.
Merci Magali, qui est aussi finalement dans toi aussi cette question du rapport à la transmission avec la mamie.
Ben moi, le rapport, en fait, je l'ai appris très tard. C'est un rapport avec mon grand-père que je n'ai pas connu en fait. Et quand j'étais au lycée agricole, on apprenait, il y a un livre qui s'appelle Lacta, qui est la référence absolue des produits que vous aimez bien tous, et qui donne le produit pour telle maladie et tout ça. Et ça je détestais ça, mais je ne savais pas pourquoi. Mais j'étais bien obligé de l'apprendre, comme tout le monde. Et en fait, c'est quand on a fait la bascule dans les années 2000, en fait, un soir en discutant avec papa, qui m'a dit que mon grand-père avait été gazé en 1917 exactement, avait fait partie de ces gens qui ont expérimenté malheureusement. Il n'en est pas mort, mais je pense qu'il en a gardé des séquelles. Et en fin de compte, alors que je ne le savais pas, je pense que c'est le fond de mon travail.
Oui, oui, oui.
Décidément, ça me touche à chaque fois que je t'entends prendre la parole. Merci.
Je vais boucler le tour. Alors moi, mon lien au vivant, ce qui me vient en premier... En fait, c'est ma famille, c'est ces relations humaines, en fait, parce qu'on est vivant et que toutes ces relations sont vivantes et qu'elle est toujours très présente. Et ce qui me vient ensuite, c'est de me dire que c'est le côté mer-océan, parce que j'avais un père militaire, donc j'ai beaucoup déménagé. J'ai pas d'ancrage comme ça dans une maison, dans quelque chose. Et par contre, mon ancrage, c'est cette mer que je voyais toujours, jamais très loin, parce qu'il était marin. Et que mes grands-parents étaient bretons, et j'ai toujours plaisir à la retrouver, parce que j'habite aujourd'hui, j'ai cette chance-là d'habiter près de la mer et de pouvoir aller me baigner toute l'année en mer. Donc voilà, c'est un lien qui perdure et qui fait que je m'émerveille. Hier, il y avait je sais pas, 500 000 saupes à Malmousque, c'était magnifique, et ça m'émerveille à chaque fois.
Ouais, il y a du monde sous l'eau en ce moment, ouais. Je confirme.
Beaucoup de vie.
Beaucoup de vie, mais ça fait plaisir.
Ouais, ouais.
Eh bien, merci à vous pour cette introduction. De présenter vos parcours respectifs. Ce que je vous propose, c'est de passer du moi au nous et de présenter un peu vos projets respectifs. D'abord, on va les présenter chacun individuellement. Et puis après, je poserai la question à Fanny de savoir qu'est-ce qui vous lie. Parce que quand on va vous écouter, peut-être qu'on pourrait se dire de premier abord, voilà, chacun sur sa trajectoire. Et donc, on sera curieux de savoir ce qui vous relie. On va continuer donc ce petit tour de table. Magali, je t'ai présenté très rapidement, tu travailles chez Bleu Tomate, qui est une agence de communication qui valorise les acteurs de l'agroécologie en Provence. Guy, tu es bénévole au Panier Marseillais, qui assure le lien avec 1400 familles marseillaises et une quarantaine de producteurs locaux de la terre à l'assiette. Et Fanny Morel, tu as plusieurs casquettes, notamment de pouvoir accompagner la Convention des entreprises pour le climat. Tu es aussi une animatrice de la Forêt des possibles. Donc là, tu es en tant qu'invitée, mais tu es aussi de l'autre côté par rapport à cette association. Voilà, je vous laisse maintenant la parole sur présenter ces initiatives respectives.
Ben, alors, Bleu Tomate, donc j'ai juste rectifié, c'est pas qu'une agence de communication. C'est une agence plutôt d'information, c'est-à-dire qu'on vient plutôt du milieu de l'information. Mais effectivement, on a monté un média qui s'appelle Bleu Tomate le Mag, en 2015, il y a 10 ans. Et notre idée, c'était de braquer les projecteurs sur les initiatives qui émergeaient sur le territoire de la Provence en matière d'agriculture, d'alimentation, et d'essayer de les faire émerger du débat public, parce que souvent, bah, elles pouvaient pas se payer une agence de com. Typiquement, les AMAP, on a travaillé, au tout début, il y a eu plein d'associations comme ça qui se sont créées et qu'on a essayé de mettre en lumière. Et donc, pour faire vivre ce média, eh ben, on avait une agence de communication dont les bénéfices permettaient de financer ce média. Et aujourd'hui, Bleu Tomate, c'est effectivement une agence d'information, de communication qui accompagne vraiment beaucoup de monde en Provence, dans le monde agricole notamment, dans les sujets liés à l'alimentation durable. L'agriculture mène à tout. C'est-à-dire que nous, l'agriculture nous a emmenés vers la biodiversité, vers la santé environnementale. Et aujourd'hui, on travaille aussi côté mer en biologie marine. On fait de la médiation scientifique, on a un département de médiation scientifique, parce que quand on fait de l'information, on essaye d'être juste. Et donc, on a Bleu Tomate Média qui a grandi. Donc, Bleu Tomate le mag, ses réseaux sociaux. On a Bleu Tomate Junior pour les enfants primaires, collèges, et BTJ+, pour les lycéens post-bac. Et donc, tout ça sont des canaux d'information destinés à faire le lien entre des gens comme Guy et puis le grand public.
J'aurais plein de questions qui me viendraient à l'esprit, mais on va faire un petit tour de table et après je poserai des questions en fait pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup pour cette. Ça va me frustrer de pas pouvoir aller plus loin, mais je vais laisser la parole à Fanny sur ce que tu veux présenter puisque tu as plusieurs casquettes. Et alors là, c'est plus aussi la casquette CEC.
Oui, l'idée, c'est de présenter aussi la Convention des entreprises pour le climat, dans le sens de se dire que pour tout ce qui est transition, en fait, c'est à chacun de jouer sa part. On a le fameux triangle de l'inaction où que ce soit les citoyens, les institutions, les politiques et puis les entreprises, chacun doit faire sa part, sinon on ne va pas s'en sortir. Et donc, la Convention des entreprises pour le climat, c'est un mouvement de dirigeants qui s'est inspiré de la Convention citoyenne, donc qui est née en 2021, et qui a pour vocation d'accompagner des dirigeants à prendre conscience déjà de la réalité et de l'urgence de la situation environnementale et sociétale, et de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire évoluer leur business model pour que leur activité se mette au service du vivant. Et c'est aussi une raison de survivre pour eux, parce que s'ils restent dans l'ancien modèle dans lequel il y a eu beaucoup plus de certitudes et qu'ils n'évoluent pas avec les crises qu'on connaît actuellement et ce qui va advenir, c'est vrai qu'ils ne seront pas prêts c'est un vrai risque pour eux. Et du coup, on les accompagne à cette prise de conscience et à ce changement de modèle. Et donc, c'est un parcours qui est proposé soit sur des territoires, soit sur des thématiques, des parcours de 10 à 12 mois, sur une douzaine de jours où les dirigeants travaillent ensemble. Donc il y a à la fois la prise de conscience avec des conférences, à la fois des sous-groupes de travail qu'on appelle les camps de base, et Magali pourra témoigner parce qu'elle y a participé avec Bleu Tomate, et à la fois toute cette communauté qui existe aujourd'hui. En Provence, c'est 300 alumni, au niveau national, c'est plutôt 3000 alumni. Et l'idée, c'est qu'ensemble, de provoquer cette bascule d'une économie extractive qui épuise la planète vers une économie régénérative au service du vivant, pour les autres formes de vivant sur Terre et pour les générations futures.
Merci Fanny. Je peaufine ma question d'après. Guy, pour continuer le tour de table, à ton tour.
Bien, en fait, le fait de changer de façon de travailler et de type d'agriculture. Avant, grosso modo, on travaillait avec une coopérative qui s'occupait de la commercialisation et tout. Et à partir du moment où on est passé en agriculture biologique, on commercialisait plus par nous-mêmes. Et il se trouve que, à cette époque, mon fils habitait Toulon et on venait le voir régulièrement. Et je trouve dans une biocoop un petit fascicule présentant la première réunion internationale des AMAP, où il devait y avoir 4 personnes,
oui,
je suppose,
ça.
À peu près. Mais nous, les vacances, c'est bien, mais il fallait quand même retourner. Donc, mais il y avait quelque chose qui avait germé. Et l'été suivant, On a pris contact avec Denise et Daniel Villon, qui étaient un peu les créateurs en France de ce mouvement. Et ça correspondait exactement à... enfin, ils nous ont expliqué les fondements et tout ça. Et en plus, moi, je ne suis pas du tout commerçant. Et là, ça permettait d'une relation entre des agriculteurs et des mangeurs en amitié, un peu, quelque chose de sain, quoi, en fait, avec une rémunération correcte des uns et un prix correct pour les autres. Ce qui fait que, en retournant en Touraine, on était sur d'autres chantiers avec des amis, et à la sortie d'une réunion, quelqu'un a dit, mais, ah oui, les AMAP. Et en fin de compte, dès le mois de septembre, on a organisé c'était une réunion de la conf, où des militants sont venus avec des écrans, des papier et tout ça. On a commencé à présenter le projet alors qu'on ne connaissait pas grand-chose et personne ne savait que ça existait. On devait être dans les années 2004-2005. Et on a participé comme ça à la création d'une des premières AMAP en Touraine, en fin de compte. Et puis, essaimé un petit peu à droite et à gauche. Ce qui fait que cette façon de voir les choses en commun me convenait tout à fait. Ce qui fait que en 2012, quand on est descendu après avoir pris la retraite à Marseille, la première chose, ça a été de trouver une structure qui puisse nous accueillir. La première était vers le Lapin Blanc, un peu par là-bas, une structure, mais il n'y avait pas de place. Ah non, ça ne pouvait pas faire. Donc on en a trouvé une autre, celle où on est. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans les paniers marseillais, parce que le groupe Panier de Chano faisait partie de cette équipe. Et donc, ça a été une continuité normal, quoi. Ce qui fait que ça les avait un peu étonnés de nous voir arriver et d'être au courant de tout le processus. Mais bon, on le maîtrisait déjà depuis de nombreuses années, quoi, en fait.
Et moi, j'ai cru pendant 10 ans que la MAP, les paniers marseillais, on était les premiers en France. Pas du tout, c'est en Touraine que vous avez commencé.
Non,
c'est
non,
ça
non.
Que tu es en train de me dire,
non,
Guy.
Non, non, nous on a été dans les premiers en Touraine, ça s'appelait même AMAP Touraine, ce qui correspondrait au PAMA. Mais non, la première, c'était monsieur et madame Villon à Aubagne, en fin de compte.
Ah oui,
c'est vraiment eux. Oui. Non, non. Non, non.
Non, non, jamais les premiers.
À jamais les premiers.
Oui, tout à fait. Non, non, c'est vraiment eux qui ont, avec, commencé cette association au niveau de... Enfin, j'ai plus le nom en tête, peu importe. Mais c'est, non, non, c'est Aubagne avec...
Oui, avec Jérôme Laplace.
Oui, Jérôme, tout ça. Mais c'est, on a eu la chance d'être formés par eux, quoi, en fin de compte. Donc, et on... C'était vraiment une chance et un plaisir, quoi, en fin de compte. Ensuite, ils étaient venus à la maison, d'ailleurs. Et tout.
Mais c'était une petite révolution, parce qu'aujourd'hui, ça a l'air d'être courant. Mais c'est vrai qu'au moment où tout ça naissait, et c'est là où on se rend compte aussi tout le chemin, finalement, qu'on a parcouru. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu les uluberlus, quoi.
Une utopie qui devient quelque chose de classique.
Une utopie qui devient quelque chose de classique. Et alors, il y a plein de questions que j'aimerais vous poser. Notamment, on a parlé de questions de changement de modèle. Et j'aurais été curieux de connaître quel est le modèle de chacune de vos structures. Mais je vois aussi le temps qui passe. Et une de mes questions, c'est savoir ce qui vous lie. Parce que Fanny, tu as pris l'initiative d'avoir cette invitation à trois. Et donc, je suis curieux de savoir finalement comment est-ce que tout ça, ça sent... Pardon, je touche mon micro. Il ne faut pas toucher les micros. Quelles sont les interactions que vous avez entre vos structures? Et peut-être que vous pouvez un peu répondre aux deux questions en même temps. C'est quelles sont les interactions et comment ces interactions participent à peut-être nourrir vos modèles respectifs? Et donc, ça commence un peu à rentrer dans ces enjeux de coopération et de réponse des intérêts des uns et des autres, qui sont aussi au cœur de la philosophie de la permaculture, dont on donnera la définition juste après la pause musicale. Qui veut répondre à cette question difficile? Savoir ce qui vous lie et comment est-ce que vous arrivez à concilier vos intérêts, vos modèles?
C'est Fanny, hein, qui nous lie.
Oui. En fait, Ce que j'avais envie de partager, c'est cette idée de faire écosystème sur le sujet de l'alimentation, parce que pour moi, ce qu'on appelle le One Health aujourd'hui, c'est-à-dire que si nous, on est en bonne santé, on aura plus de chances de prendre soin de la planète. Si la planète va mieux, ben nous aussi, on sera en bonne santé. Donc, on retrouve là tout ce côté systémique. On se nourrit, on s'alimente et on prend soin les uns des autres de manière vertueuse, j'ai envie de dire. Je trouve que ça s'illustre très bien par le sujet de l'alimentation, qui est quand même un de nos besoins fondamentaux. Et que en permaculture, souvent, on a cette visée de se dire il faut qu'on arrive à l'autonomie alimentaire. Et moi, je suis une urbaine de cœur. Et que je me dis, si tous les urbains partent habiter à la campagne pour avoir leur petit lopin de terre, bah, en fait, on détruirait le foncier et la biodiversité. Donc finalement, je trouve que ce concept des paniers qui vient chercher tout ce qui est production agricole biologique, hein, entre les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, pour venir nourrir la ville de Marseille, 1400 familles, ça vient quelque part créer un système qui va faire que finalement, ensemble, eh ben, on va accéder à cette alimentation de qualité, une forme de finalement d'autonomie à plusieurs, quelque part. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et c'est ça que je trouve, enfin, c'est là où je trouve que ça devient aussi résilient, parce que finalement, bah, y a tout un système qui est assez complexe. Il y en a un qui se casse la jambe, c'est un autre agriculteur qui prend le relais. Il y a un client qui déménage, c'est un autre client qui prend le relais. Et voilà, on se nourrit mutuellement. Et du coup, le lien avec Magali, bah, c'est qu'elle, elle promeut ça depuis tellement d'années que voilà, je trouve que c'est aussi intéressant de montrer que finalement, chacun avec nos postures différentes, on vient de nourrir ce système de coopération pour que les villes soient bien nourries par les campagnes. Voilà. J'avais à cœur de mettre ça en avant.
Les gens ne voient pas les vidéos, mais avec ta main, tu montrais aussi comment est-ce que la ressource de l'un, c'est le besoin de l'autre. Et donc, on voyait tes mains qui bougeaient. Donc, il faut se les imaginer aussi quand on t'écoute. Magali, Guy, est-ce que vous êtes en accord avec cette réponse ? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez compléter ?
Oui, bah moi, ce que je trouve assez rigolo, c'est que je suis venue à l'émission sans vraiment préparer rien du tout. Pardon. Et donc, je n'ai pas non plus vu que Guy était l'invité. Et quand je suis arrivée, j'ai vu Fanny discuter avec quelqu'un. Et j'ai retrouvé Guy, on ne s'est pas vu depuis, je ne sais pas, 4-5 ans. Non, c'était avant Covid. Mmh. Avant Covid. Parce que Guy est au conseil d'administration, il est toujours peut-être du GRAB, qui est le groupe de recherche en agriculture biologique. Et on fêtait les 45 ans, hein, si je ne m'abuse. Et donc, on accompagnait le GRAB sur cette mission. Et donc, de retrouver Guy, bah, c'était super. Donc, qu'est-ce qui nous lie finalement ? Certainement plein de choses.
L'assiette et l'amitié. Guy, comment toi tu vois les choses ?
Ben, en fait, moi au départ, c'est vraiment de la production. Moi, je suis vraiment un agriculteur. Hein, je réagis en fonction de ça. Je pense en fonction de ça et je fais avancer les choses en fonction de ça. Mais avec une agriculture de qualité, pour en fin de compte l'environnement, tout ce qui va derrière, la santé. Mais en fait, ça, même l'habitation, ça, je l'ai découvert petit à petit. Au début, c'était l'agriculture. Puis après, j'avais des collègues qui travaillaient plutôt autour des maisons saines, en fait. Et puis de la santé automatiquement. Et moi, mon grand espoir, c'est que tous les gens qui travaillent autour de la santé se bougent, quoi, en fin de compte. Ce qui a été un petit peu le cas ces derniers temps, mais malheureusement, pas encore assez à ma convenance, parce que quand on sait le nombre d'agriculteurs qui sont physiquement, enfin, qui sont malades et morts, hein, pour certains, comme le papa de Thierry, par exemple, et d'autres centaines, et que la MSA, qui a des dossiers, mais des tonnes de dossiers, elle est au courant de tout ça, mais elle est noyautée par le syndicat majoritaire, n'arrive pas à pousser assez loin l'information. En ce moment, les choses qui sortent sur l'eau et tout ça, où on s'aperçoit que tout ça va malheureusement dans le mauvais sens, quoi, en fin de compte. Donc on a vraiment à ramer et à faire dévier pour faire en sorte que ce soit un monde vivant, dont on parlait, tout ça, mais de qualité en même temps.
Et vivable.
Et solidaire. Ce que j'ai remarqué, moi, quand je suis passé de l'un à l'autre, J'ai toujours été en bonne relation avec mes collègues et tout. Peut-être eux moins, mais bon, peu importe. Mais à partir du moment où je suis rentré dans ce milieu-là, je ne citerai qu'un exemple. Je me souviens d'un de mes collègues. Lui, il était né bio. Donc c'était ses parents qui étaient bio. Et dire qu'ils en avaient bouffé de la vache enragée, hein, je peux vous assurer. Et il a mis tout son carnet d'adresses à disposition. Jamais dans le conventionnel, quelqu'un met un carnet d'adresses, même dans n'importe quel métier. Quand quelqu'un met son carnet d'adresses à votre disposition, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé.
Ça me fait penser au film Goliath, ce que tu nous as partagé. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non.
Film Goliath qui est une confrontation entre le lobby des pesticides, d'un côté, avec tout le cynisme et la puissance économique pour pouvoir défendre des intérêts, notamment soit dans les médias, soit auprès des décideurs politiques. Et puis ensuite, le lobbying qui va être ciblé sur des députés français, européens, pour faire avancer des directives ou pour noyauter des recherches. Et de l'autre côté, des militants, qui soient avocats ou des militants qui viennent du terrain et qui font remonter, pour le coup, des histoires de personnes qui sont mortes parce qu'elles ont été empoisonnées par les pesticides. Mais ensuite, dans cette confrontation, c'est aussi pour ça David contre Goliath, on voit aussi les grands rapports de puissance et les grandes inégalités de moyens pour défendre ses intérêts. Donc ça va vraiment directement dans le sens de ce que tu nous partageais, Guy. Et là, c'est plus ce qui ne fonctionne pas. Et je vous propose qu'on s'arrête sur cette première partie d'émission là-dessus. Et dans la deuxième partie, on ira sur ce qui fonctionne et ce qu'on peut promouvoir. Et pour avoir un moment de respiration, je vous propose que vous nous présentiez la musique que vous avez décidé de nous faire écouter ce soir.
Alors, c'est moi qui l'ai choisi, c'est September. Je trouvais que c'était une drôle de coïncidence parce que ça fête une soirée d'un 21 septembre et nous sommes le 17. Et en fait, c'est une musique qui est très joyeuse, très positive et puis qui, avec vraiment un orchestre, et j'aime beaucoup cette image de l'orchestre qui arrive à se coordonner, à s'ajuster pour produire quelque chose d'harmonieux et qui donne de l'élan. Voilà, donc j'avais envie de partager ça.
Top. Eh ben, merci de mettre cette énergie positive pour la deuxième partie d'émission et on se retrouve juste après dans La Forêt des Possibles. Merci à vous.
Love is changing the mind.
Une chanson qui donne la patate pour reprendre cette deuxième partie d'émission de La Forêt des Possibles. Nous sommes toujours en direct le mercredi 17 septembre 2025 avec Magali Triano, Fanny Morel et Guy Durand dans l'émission de La Forêt des Possibles, à nous poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut nourrir les villes avec la permaéconomie et la permaculture. Dans la première partie d'émission, on a présenté vos parcours, vos engagements, les prémices de vos projets, puis les projets, ce qui vous lie. Et dans la deuxième partie d'émission, eh bien, la question sera de savoir comment est-ce qu'on peut esquisser quelques trajectoires, puisque cette question mériterait d'avoir des réponses beaucoup plus détaillées que les 20 minutes qui nous restent pour parler de la question de savoir comment est-ce qu'on peut nourrir les villes. Mais on a beaucoup employé le mot de permaculture, qui peut être un concept, qui peut être un peu parfois abstrait pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont jamais expérimenté. Et donc c'est le moment de donner une définition et puis ensuite d'aller creuser quelques exemples qu'on va tracer ensemble. Fanny, je te l'avais demandé en préparation, et puis c'est un sujet que tu maîtrises bien. Est-ce que tu peux nous donner ta définition à toi ? Et puis ensuite, Magali et Guy, si vous voulez la compléter, n'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est que la permaculture ?
Qu'est-ce que c'est que ce gros mot ? Non, la permaculture, en fait, c'est la culture de la permanence. Et en fait, c'est une intuition de Bill Mollison et de David Holmgren, qui sont deux Australiens dans les années 70, qui se sont dit qu'avec cette révolution industrielle, très probablement, rapidement, on arriverait à atteindre les limites planétaires et qu'on allait détruire notre planète. Donc, ils ont été assez inspirés, finalement, assez clairvoyants. Et ils se sont dit, mais finalement, comment est-ce qu'on peut fonctionner tout en progressant, mais en restant respectueux de notre environnement pour que ça continue de bien fonctionner pour les générations futures. Et du coup, ils ont regardé comment fonctionnait le vivant depuis 3,8 milliards d'années. Et ils en sont extraits des principes. Et les principes, vous avez des principes éthiques qui sont prendre soin de la terre, prendre soin des humains et partager équitablement les surplus. Et en fait, de manière très concrète, l'idée, c'est de se dire, est-ce que quand je prends une décision, je prends soin de la terre, je prends soin des humains et je prends soin de partager les surplus. Et à partir du moment où on reste dans ce cadre-là, ça veut dire que nos décisions, elles vont permettre ce qu'on appelle un peu de manière théorique le système, c'est-à-dire toutes ces interactions, tous ces éléments qui la composent, donc les individus, les organisations, ainsi de suite, et puis les autres êtres vivants. Comment tout cela va interagir de manière durable, pérenne et joyeuse. Et ça, c'est vraiment l'intention de la permaculture, c'est de créer des systèmes qui soient résilients, durables et joyeux. Et c'est là où c'est un sujet qui est une philosophie qui est vraiment d'actualité, parce qu'un système, ça peut être un être humain, c'est un système, il a différentes composantes. Mmh. Et comment est-ce qu'il prend soin de lui pour durer dans le temps et pas s'épuiser ? Une organisation, c'est un système, et comment, c'est avec ses composantes de salariés, de parties prenantes, de fournisseurs, de matières premières, et comment elle prend soin tout ça pour continuer à perdurer dans le temps. Et en fait, la Convention des entreprises pour le climat, son modèle de changement de paradigme vers une économie régénératrice, repose sur les piliers de la permaculture. Donc, censément, les dirigeants se posent ces questions-là maintenant quand ils décident. Voilà. Et effectivement, après, on le retrouve dans l'agriculture. C'est une des principales applications de la permaculture. Mais voilà, ça concerne tous les champs. Tu parlais de l'habitat aussi, Guy. On peut aussi, quand on construit une maison, se poser ces questions-là. Et après, du coup, on fait du design, on observe beaucoup pour arriver à concevoir des systèmes qui soient durables, résilients et joyeux.
Une définition très claire, merci Fanny. Et puis les systèmes souvent sont intégrés les uns dans les autres, du mot nous et du nous tout. C'est aussi pour ça qu'on a pris cette allégorie de l'arbre et de la forêt, pour pouvoir montrer la porosité des systèmes. Et il n'y a rien de mieux que de donner des bons exemples pour expliquer parfois des concepts qui peuvent être compliqués, parce que quand on parle de système, tout d'un coup ça prend en compte des données complexes et on peut perdre tout le monde, quand bien même la définition est claire. Et donc ce que je vais vous proposer, ça va être de faire des petits cas pratiques et de présenter par exemple de la permaculture à une échelle individuelle ou de jardin.
Pardon. La tête. Non mais avec Guy, on se regarde, on se dit qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est qu'il va nous demander, Marin ?
Fanny a préparé, vous en faites pas, vous pouvez ensuite partir la suivre dans là-dessus. Non mais pour présenter là, et je vois qu'Elissa lève la main, alors je finirai ma question et je laisserai la parole à Elissa. Peut-être de la permaculture dans un jardin, de la permaculture à l'échelle des organisations et puis de la permaculture à l'échelle d'une ville. Kézako, qu'est-ce que ça implique ? Et je laisse la parole à toi.
Eh ben, moi, Fanny, ça m'interpelle parce que j'ai un petit peu digué ce principe de permaculture qui m'a beaucoup intéressée pendant un moment, et notamment le fait que toute ressource et a de la valeur et que le déchet d'un va être très important pour l'autre. Et alors, dans une entreprise, bah, voilà, si on peut commencer par peut-être à l'échelle d'une organisation entrepreneuriale, à quoi ça ressemble la permaculture pour une entreprise? Et bah, oui, en fait, on pose la même question. On veut des exemples.
On veut des exemples. Et ben, alors, ta question me fait penser à deux exemples. Le premier, par exemple, le déchet des uns dans une entreprise, dans une équipe, des fois, parfois, il y a quelqu'un qui n'est plus à la bonne place et qui, du coup, peut devenir, entre guillemets, un peu toxique pour l'équipe, mal à l'aise, mal dans sa peau. Enfin, voilà, ça pose des problèmes à tout le monde. Et je pense qu'on a tous connu ça à un moment ou à un autre de notre vie professionnelle. Et bien, en fait, cette personne, elle n'est pas au bon endroit. On pourrait considérer que c'est le déchet. Et en fait, elle est peut-être beaucoup mieux à sa place ailleurs parce qu'elle a forcément des ressources. À partir du moment où elle est au bon endroit, elle va pouvoir déployer ses ailes et donner le meilleur d'elle-même. Donc, finalement, la permaculture en entreprise, et c'est là où on parlait de permanagement, on avait parlé au début, et bien, c'est ça, c'est comment on manage ses équipes pour que chacun soit au bon endroit, que l'articulation des uns et des autres, puisqu'on est dans un système, puisse donner quelque chose de supérieur. On parle aussi beaucoup en permaculture du tout, il est supérieur à la somme des parties. Ce que fait chacun individuellement ne sera jamais aussi fort que ce que l'équipe va faire ensemble et va produire ensemble. Voilà, donc finalement, c'est comment le manager va arriver à articuler tout ça. Et avec cette personne qui n'est pas au bon endroit, bah, c'est soit on est dans une grosse structure, et puis effectivement, au bout de 4-5 ans, elle a envie de changer, et on trouve un endroit où là, elle va être beaucoup mieux, elle deviendra la ressource d'un autre service avec le recul de l'expérience qu'elle a du service précédent, soit elle n'est pas au bon endroit et le monde professionnel il est beaucoup plus vaste que celui de l'entreprise, elle peut aussi trouver sa place ailleurs, voilà, et elle sera la première à en bénéficier aussi, voilà, donc ça peut être ça la permaculture en entreprise.
Merci beaucoup. La question de la juste place irrigue aussi la forêt des possibles, mais c'est
toujours
pour ça qu'on travaille aussi ensemble. Ça, à titre personnel, ça m'a aussi vachement frappé quand j'avais fait de la permaculture très humblement pendant le confinement sur la question du positionnement des différentes plantes avec des grands tableaux de combinaison, de voir quelles sont celles qui vont être compatibles les unes avec les autres en fonction de l'échange des nutriments, et puis ensuite celles qui ont besoin de beaucoup de soleil, celles qui ont besoin de plus d'ombre, comment est-ce que l'une peut apporter de l'ombre à l'autre, celle qui va avoir besoin de beaucoup d'eau. Et donc ensuite, c'est une expérience que j'ai trouvée absolument révolutionnaire. Et derrière, c'est quand on la décline à l'échelle humaine que je trouve très intéressante. Mais ça, j'imagine que c'est des choses que tu as pu pratiquer, Guy. Je t'invite à ton tour, ou pas, je te vois faire non, mais dans ce cas-là,
où il y a le choc des générations.
donner des exemples, peut-être avec la main dans la terre, de la permaculture, puisque c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent dans le rapport de faire pousser des plantes. Est-ce que quelqu'un veut donner un exemple à ce titre-là?
Très honnêtement, j'ai quelques difficultés avec la permaculture. Moi, je suis dans l'agriculture. Ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de choses à prendre, à s'inspirer, effectivement. Mais honnêtement, quand vous montrerez des exploitations ou des gens qui sont capables de produire leur alimentation, et le problème, il est là, quoi. Mmh. Depuis que je suis à Marseille, j'entends aussi beaucoup parler d'agriculture urbaine et tout ça, mais de jardins partagés et tout ça. Mais excusez-moi, je veux dire, oui, mes grands-parents, ils faisaient des jardins où il y a des grands-parents de chacun, ou qui étaient capables de nourrir la famille et l'environnement. Je trouve que les idées de la permaculture sont très intéressantes, mais on s'engosse un peu.
Oui, voilà. Je suis assez d'accord. En fait, je trouve que c'est une vision assez intellectuelle, en fait, du vivant, curieusement. C'est-à-dire que ce dont vous parlez, ce que vous évoquez, les interactions avec les plantes, les auxiliaires, etc., ça, c'est le quotidien d'un agriculteur, du vivant. Il n'a pas besoin de mettre ses trucs en carré. De lui-même, de toute façon, il réajuste la conduite de ses cultures, ses pratiques culturelles, etc. Moi, j'ai un exemple d'un ami maraîcher, dont je ne donnerai pas le nom, mais que vous trouverez à Marseille, au Danaïde, qui est arrivé dans l'agriculture il y a 10 ans, avec cette volonté vraiment. Donc, il avait vu tous les trucs YouTube de faire de la permaculture. Et en fait, très vite, il s'est fait rattraper par la nécessité de produire, c'est-à-dire et puis d'avoir des rangs où finalement, bah, c'est vrai, moi aussi, hein, je suis la première à dire, il n'y a pas de mauvaises herbes. J'adore les mauvaises herbes. N'empêche que quand t'es agriculteur et que t'as des mauvaises herbes, t'es un peu emmerdé et que par moment faut désherber. Donc à la main ou autre, je dis pas du tout qu'il faut utiliser des pesticides. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être ce qui peut être un peu là clivant, et c'est là où c'est intéressant, parce que nous chez Bleu Tomate, on travaille beaucoup sur les notions de réconciliation. Et en fait, moi j'ai tendance à penser que ce type de concept, comme l'agriculture régénérative, comme a plutôt finalement créé de la distance entre ceux qui nous nourrissent et nous. Et effectivement, à la question donc j'avais pas préparé l'émission et je ne savais pas que la question c'était comment nourrir les villes avec de la permaculture. Je me dis, ok, selon moi, c'est pas de cette façon-là qu'il faut aborder le sujet. Et il faut plutôt se demander, effectivement, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? On a des agriculteurs qui sont là. Tu parlais de la transmission. Quand tu as un agriculteur, tu lui dis, bon, maintenant, tu arrêtes le conventionnel, tu passes au bio. Hein, donc, c'est comme si je te disais à Marin, bon, bah, toi, tu arrêtes avec ton ordinateur. Maintenant, tu prends un cahier et un stylo et tu me fais la même. Bah, ça va être un peu compliqué. Donc, il faut du temps, il faut de la recherche. Il faut parfois aussi se heurter à son héritage, se confronter à son père, son grand-père qui faisait ça depuis longtemps. Enfin, je veux dire, c'est une grosse révolution. Et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup le monde agricole, parce que je trouve que le monde agricole a entamé cette révolution bien avant que le reste de la société se pose la question. Voilà, le risque, on l'a vu avec le régénératif, hein, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui à la CEC de manière très ouverte, c'est-à-dire, ok, personne ne sait ce que c'est, personne ne sait y aller, et finalement, on n'embarque pas du tout les équipes, et à l'inverse, elles fuient. Et donc, pour le tout à chacun, effectivement, déjà comprendre les systèmes alimentaires locaux, l'agriculture biologique, etc., c'est déjà, il y a du job, hein. Donc, quand on vient en plus poser des concepts un peu plus pointus, eh ben, peut-être que le risque, c'est créer de la distance. Mais...
Moi, j'entends plusieurs choses. J'entends les limites des concepts, et donc merci de partager ça. Ça, c'est la première chose que j'ai à dire. La deuxième, c'est que j'ai l'impression qu'un des points de tangente va se situer sur la question des rapports d'échelle. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'entends. C'est que la permaculture, ça marche à une échelle qui peut être petite et que là, quand on se pose la question d'une ville, on va s'interroger sur à quel point c'est duplicable et à quel point ça nourrit une ville ou pas. Et donc, quand on discutait avec Fanny, il y avait aussi la question de comment la ville nourrit la campagne, comment la campagne nourrit la ville. En tout cas, c'était ça un des points que tu voulais qu'on aborde. Et puis, je te laisserai ensuite embrayer là-dessus. Moi, ce que je trouve intéressant, malgré tout, pour défendre le concept que j'ai mis, parce que là, je me suis pris des taquets, c'est que malgré tout, quand on en fait, on se rend compte de l'intelligence du vivant. Ça nous rend humbles aussi, parce qu'on voit une parcelle qui est extrêmement productive, et malgré tout, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça qui nous fait manger. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas à l'échelle de nos besoins, ni d'une personne, encore moins d'une famille. Alors, imaginez un quartier. Et je pense que quand chacune met la main dans la terre, on réalise ensuite toute la nécessité qu'il faut pour produire suffisamment. Et donc, ne serait-ce que pour l'intérêt pédagogique.
Oui, oui. De la même manière, l'agriculture urbaine a eu cette vocation-là. Et c'est ça qui a été génial avec l'agriculture urbaine. Je veux dire, je pense que personne n'a cru qu'à un moment donné, l'agriculture urbaine allait nourrir... Stéphanie Nou, qui a fait des études assez poussées sur la question de l'autonomie alimentaire, hein, qui, pour une ville, c'est 3 jours. Donc, il y a du job encore. Hein. Je ne sais plus ce que c'est que le taux de je crois qu'on a 4% d'autonomie alimentaire en région PACA. Donc, on exporte 90% de ce qu'on produit dans les Bouches-du-Rhône. Donc, il y a beaucoup de travail. Par contre, faire son potager en permaculture, effectivement, je pense que ça peut être une expérience hyper intéressante en termes de vivant. Conduire une exploitation agricole en permaculture, certains vous diront aussi, si c'est possible, après je le fais. Oui, maintenant, tu nourris combien de personnes ? Puisque la question, c'est pour moi, la question essentielle, c'est comment nourrir tout le monde. avec une agriculture locale, biologique ou saine, mais voilà. Et ce n'est pas juste une frange de la population, c'est tout le monde, donner accès à tout le monde.
Ouais, et j'en profite de faire un petit coucou de soutien à une structure qui a disparu cet été, qui travaillait à Marseille sur cette question-là, qui s'appelle la Cité de l'Agriculture,
ouais.
Qui visait justement à promouvoir l'agriculture urbaine, mmh. Avec différents chantiers, de la sensibilisation, des jardins, et puis ensuite un bureau d'études, qui a périclité pour l'instant. Donc on leur souhaite, enfin moi je leur adresse mon soutien là-dessus, et j'imagine que c'est collectif autour de cette...
Non mais qu'on se méprenne pas, l'agriculture urbaine c'est hyper important, mais sa vocation effectivement elle est beaucoup dans la sensibilisation. Moi je trouve que ça a beaucoup servi, la Cité de l'Agriculture a beaucoup servi à Marseille justement pour donner à l'agriculture de l'importance et donc à l'alimentation.
Alors je vais poser mon avant-dernière question puisqu'on a eu les retours de Guy et de Magali. J'aimerais bien avoir celui de Fanny parce que c'est tous les deux qu'on a préparé l'émission, et donc c'est aussi bien d'avoir du débat parfois. On a des émissions qui sont douces avec une trajectoire où tous les courants sont dans le même lit. Là il y a eu une petite distinction de courant. Comment toi tu vois la chose, Fanny?
Déjà je rejoins complètement Magali sur la question, c'était pas de nourrir la ville avec la permaculture, c'est de nourrir la ville avec les campagnes. Et c'est ce que je disais aussi en début d'émission, c'est comment finalement on vient se nourrir mutuellement. Et ce que j'aime beaucoup dans le système des PAMA dont je suis adhérente, c'est qu'en fait un adhérent des PAMA s'engage à payer son agriculteur quelle que soit sa production, en fait, hein, qu'il y ait moins de tomates ou plus, on est solidaire quelque part. Et c'est là où je trouve cette échelle intéressante, et c'est ce que je disais au début, c'est pas qu'on soit chacun autonome, c'est qu'on soit autonome à l'échelle d'un territoire parce qu'on joue la carte de la coopération. Voilà. Et c'est là où alors je comprends complètement le côté intellectualisé, il y a aucun souci avec ça, et je trouve ça intéressant aussi de se dire que l'idée c'est pas de perdre les gens, mais effectivement c'est de parler un langage et de donner envie que ça soit désirable. Voilà. Mais l'idée, c'est de dire, côté permaculture, c'est de se dire finalement ce système des paniers marseillais, en lui-même, il est permacole parce qu'il y a beaucoup d'acteurs différents et que du coup, il démultiplie, il crée de la sécurité en fait. Mmh. Voilà, parce que l'échelle est agrandie, et c'est là où je disais aussi que finalement, pour moi, ça a plus de sens que d'être moi-même, de produire ma petite production et de me dire que si demain il m'arrive quoi que ce soit, j'ai plus rien. Mmh. Voilà. Donc je rejoins complètement l'idée de dire comment est-ce que à l'échelle de notre territoire, on peut se nourrir les uns les autres. Voilà. Et peut-être juste pour continuer, ce qui m'a séduit, en tout cas dans la permaculture, pour moi qui suis une urbaine, c'est le côté bon sens, c'est de retrouver le bon sens. Voilà. Et ça, c'est vraiment traduit dans la permaculture où finalement, on trouve des solutions de plus en plus techniques et technocratiques. Dans les entreprises, on invente plein de méthodes. Et finalement, est-ce qu'on ne ferait pas juste bien de s'écouter, de se parler, de voir un peu ce qui se passe? Tu disais quand Guy a des émotions, on est sensible et tout. Est-ce qu'on ne devrait pas juste revenir à notre condition de vivant? Comment est-ce qu'on interagit? Et vraiment avec cette intention, et c'est ça qui me séduit, de créer des systèmes, donc le mot n'est pas joli, ok, mais voilà, qui soient durables et résilients, et c'est ça qui est important. Et c'est ça permet de comprendre, en fait, c'est une grille de lecture. Voilà, moi, c'est dans ce sens-là que j'utilise.
Je sais, Guy, que tu voulais participer, mais il est 54, alors je vais poser ma dernière question. Mais tu pourras peut-être, dans la réponse, quel est ce que tu voulais mettre. La dernière question, on est en train d'inaugurer une nouvelle catégorie qui s'appelle le Jungle Speed. Alors, je ne sais pas si on va garder ce nom-là, mais peu importe. La question, c'est de nous projeter à Marseille et sa région en 2035. Et j'aimerais que vous imaginiez à quoi ressemble cette Marseille-là en 2035. C'est une question gigantesque et je vais plus l'axer sur une question particulière. On a parlé au cours de cette émission de la question de la transmission. Avec quoi? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on ne garde pas? Tu disais tout à l'heure, Magali, que finalement, un certain nombre d'agriculteurs avaient pris la main depuis bien plus longtemps que le reste de la société. Et puis, tu nous parlais d'une manière très touchante, Guy, de ce qui t'avait été transmis. Et donc, j'aimerais vous poser la question de savoir quels sont les métiers anciens et les savoir-faire oubliés qui vont pouvoir refaire surface dans cette Marseille de 2035.
Moi, je vais rester sur la partie agricole, hein, puisque c'est mon sujet. Donc, j'ai plutôt parlé des paysages et des cultures, peut-être, qu'on pourrait imaginer voir en 2035. Mais donc, forcément, avec des nouveaux métiers. Mais c'est vrai que dans le monde agricole, on travaille beaucoup sur les questions d'adaptation au changement climatique et donc comment on adapte nos cultures. Et aujourd'hui, on mène des études qui laissent penser qu'il y a sûrement du potentiel, par exemple, sur le figuier de Barbarie. D'ailleurs, un potentiel énorme. C'est juste une pépite. Mais ça veut dire que peut-être nos vignes... Bon, moi, perso, je trouve qu'il y a trop de vignes en Provence. Donc, si on peut virer des vignes, je serais bien contente. On les verra se remplacer par des figuiers de Barbarie, le pitaya, la réglisse. On a depuis déjà de nombreuses années relancé l'amandier, le pistachier, etc. Donc, nos paysages vont changer. Mais j'aime à penser qu'il restera toujours des agriculteurs. C'est peut-être le métier... qui sera devenu le plus essentiel.
Juste deux mots. Demain, il y a une conférence sur l'histoire de l'agriculture au 18e, 19e siècle à Marseille, hein, qui devrait être très intéressante. Et il faut se souvenir quand même que jusque dans les années 1950, disons 50-60, Marseille était presque autonome en légumes, en fruits et légumes. Ça veut dire que, vous voyez, tous ces immeubles qui sont autour... Alors là, je n'ai pas la solution, je ne sais pas. Mais tout à l'heure, tu disais, on exporte 90% de ce qu'on produit. Bon, ben, il faut déjà repenser tout ce qu'on produit dans une autre, une autre optique, en fin de compte, d'autoconsommation, avec les AMAP, les paniers marseillais, tout ça, on est vraiment dans cette idée-là, quoi. Mais voilà.
Merci Guy. Fanny, pour un mot de la fin.
Eh ben moi, ce que j'ai envie de dire, c'est dans ces métiers ou dans ces pratiques sur lesquelles on a envie de revenir, je reprends l'idée de la terre à l'assiette, c'est qu'on a aussi envie de recuisiner toutes ces légumes et ces productions, parce que finalement, c'est aussi très agréable de cuisiner en soi, c'est très agréable de partager ces cuisines, et que ça fait partie, pour moi, des choses importantes à retrouver.
Eh bien, merci beaucoup Magali, Fanny, Guy, pour cette émission passionnée et passionnante. Merci. Avec... C'est agréable de voir des divergences de points de vue, et c'est la richesse aussi de venir avec...
Ça s'appelle la diversité, la biodiversité, voilà, c'est ça le vivant.
Et ben voilà, ça sera ce qu'on va mettre, ce qu'on présentera comme les petites phrases choc de notre émission. Merci à toutes et tous, on rend l'antenne et on vous dit à la semaine prochaine dans l'émission de La Forêt des Possibles. Bonne soirée.
Merci Marin.
Merci.
Merci.